Dimanche 2 août 1914. Comme chaque dimanche aux aurores, Alphonse monta à la chapelle Notre-Dame de Lourdes, seul. Il laissa derrière lui les premiers grincements de volée, et lorsqu'il n'entendit plus le chuchotement des fontaines, il se laissa happer par le chemin des pèlerins et le paysage sauvage qui s'offrait à ses pas. Les yeux mi-clos, il retrouva le décor cher à sa Louise et qu'il connaissait par cœur. C'était plus fort que lui, ce besoin de se replonger dans le souvenir encore vif de celle qui lui avait glissé entre les doigts sans prévenir. Alphonse ressassait cette défaite comme s'il était persuadé de n'avoir pas encore touché le fond. À chaque fois, il se prenait à envier ses copains mal foutus, trop petits ou trop malades pour porter l'uniforme. Eux, au moins, étaient restés aux côtés de leur promise. Et même s'ils n'en avaient pas, ils avaient continué à espérer, à se laisser charmer par les éclats de rire et les moues attendrissantes des demoiselles, à se dessiner une vie douce et, qui sait, à rêver de prendre femme. Le regard accroché aux cailloux du sentier, il avançait, envahi par un mélange diffus de tristesse et de résignation qui le laissait à peu près tranquille dans son atelier. Au travail, les grincements et les cris des outils prenaient toute la place. Sans parler du bourdonnement des questions que les enfants du quartier venaient lui poser en rentrant de l'école. Le fer, l'étain, les couteaux et les meules, la machine à tourner les objets, l'action de ses pieds, tout ceci les fascinait, les minots. Alphonse les laissait s'asseoir en cercle en face du large établi et ne disait mot. Le spectacle de ses doigts longs comme ceux d'un pianiste suffisait à leur bonheur. Mais lorsqu'il se retrouvait en chemin vers les hauteurs de la ville, son âme se mortifiait, c'était irrépressible. Le chagrin qui envahissait la moindre parcelle de son corps s'atténuait lorsqu'il arrivait devant Notre-Dame de Lourdes. La chapelle l'accueillait, et même si sa présence ici, dans ce lieu cher aux Dignois, soulignait son immense solitude, il y trouvait la paix, le temps de quelques prières. À vrai dire, il ne savait plus trop à qui s'adresser ces litanies apprises enfant et qu'il récitait à voix basse, presque machinalement, mais elle lui offrait un réconfort qu'il ne se refusait pas. Alphonse se signa en laissant son regard s'échapper à travers les vitraux et lorsqu'il se retrouva dehors face à la ville, il fut rattrapé par une pointe de honte. Un souvenir de soldat lui revint soudain. Il s'entendit railler ses copains de régiment. « Cul béni !» il leur lançait lorsqu'ils exhibaient leurs missels le dimanche dans la chambrée avant de filer à l'aumônerie, poussés dehors par les sifflets. Alphonse poursuivit jusqu'à la chapelle Saint-Vincent sur ce sentier dont il connaissait le moindre caillou et qui lui offrait souvent une jolie surprise lorsqu'il découvrait, à flanc de colline, le fossile d'un escargot ou de ce qu'il imaginait avoir été un aileron de poisson. Ce dimanche lui réserva un cadeau inédit, une minuscule étoile à 5 branches en pierre gris foncé qui dardait sa face mate au soleil déjà chaud. Il s'agenouilla et en découvrit une autre, à peine moins petite, recouverte de poussière. Il les ramassa, les caressa du bout des doigts pour en absorber la noirceur et fut tout à coup happé par une onde sonore qui remontait de la ville. Les cloches. Alphonse reconnut les cloches de la cathédrale Saint-Jérôme, là, en bas. Il ferma les yeux. Elles ne sonnaient pas comme d'habitude, non, tout comme les cloches des églises voisines, qui commençaient à se mêler à cette plainte douloureuse et insistante, lancée crescendo vers les hommes et vers le ciel. Le tocsin. Ce mot mi-doux, mi-abrupt, commença à tournoyer dans sa tête en même temps que lui revenait le souvenir de son pauvre père, racontant le vacarme des cloches surgi aux toutes premières heures de la guerre de 1870. Les boches. Alphonse serra les étoiles dans ses poings et redescendit en vitesse vers la ville, empli d'un pressentiment teinté de colère. Ils ne m'ont même pas laissé savourer ma découverte, les salauds. Ruminait-il en se concentrant sur chacune de ses foulées. Puisqu'il courait maintenant, il dévalait le sentier, poussé par l'urgence de retrouver sa mère et de savoir quelle nouvelle pouvait bien colporter ce refrain lancinant. À mesure qu'il se rapprochait de sa rue, Alphonse se sentit cerné par ces ondes puissantes qui bondissaient jusqu'au sommet des montagnes voisines et plongeaient presque aussitôt pour emplir chaque recoin de sa ville. Il ne remarqua pas les fillettes affairées à lancer leurs cerceaux, ni les infirmes qui se traînaient de maison en maison en quête d'une pièce ou d'un bout de pain. Le caporal Alphonse Richard retrouva sa mère en larmes sur le pas de la porte. « C'est la guerre, Fonfon, c'est la guerre !» Micheline tremblait, les yeux plongés dans ceux de son fils, et elle se signait en un chapelet de signes de croix désordonnés. « Viens, montons à la mairie, c'est marqué sur une affiche, Augustine est venue me le dire tantôt. » Il y avait foule devant la maison commune. On aurait dit l'enterrement d'un notable, le bruit en plus. Des pleurs, des cris, des hurlements aigus. Des femmes effondrées, leurs enfants accrochés aux robes et aux bas, le regard tendu vers ces visages inondés de larmes. Alphonse se faufila en serrant dans sa main les doigts glacés de Micheline. Sur la porte, une affiche clouée à hauteur d'homme, ornée de deux drapeaux bleu-blanc-rouge. L'ordre de mobilisation générale. Il le lut lentement, le relut et lança à sa mère : « Cette fois-ci, maman, il ne me faudra pas 3 ans pour revenir. »